Friture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Première triade de paroles d'écriture, le thème « Décadence et renaissance », trois émissions de suite, trois invités, voici venu le temps de la dernière émission. Nous allons accueillir ce soir Denis Priant, fondateur et directeur des éditions L'Harmattan. Quelques rappels. Les éditions L'Harmattan ont été créées en 1975. Leur publication à ce jour, 42 500 livres. Ils ont une réserve de livres rares et d'occasion de 950 000 titres. La publication annuelle est de 2700 titres. Le nombre de collections, 400, des directeurs actifs et bénévoles. Les auteurs à ce jour, 30 000. L'implantation en France est importante dans le quartier latin et à l'étranger, en particulier en Afrique, 11 structures. C'est vous dire l'ampleur de cette maison d'édition et on peut dire désormais que dans le quartier latin à Paris, ce sont les éditions L'Harmattan, dont le sous-titre est ô combien justifié Carrefour des cultures, qui sont dans une position unique en ce qui concerne les sciences sociales. Alors, je pense que c'est avec lui que nous allons, travailler. Il reste un problème, me dit la technique, c'est que le numéro que Denis Priant nous a transmis n'est pas bon. Nous allons donc voir comment régler ce problème. Confronté à un problème technique, tout simple, le numéro donné par Denis Priant s'avère faux, eh bien nous allons mettre Denis Priant dans la deuxième partie, et pendant ce temps-là, nous allons chercher le numéro des éditions L'Harmattan à Paris pour faire face, et je vais passer avec vous dans la seconde partie. Je vais essayer de reprendre ce que nous avons fait dans ces deux émissions, en attendant d'écouter encore une fois Denis Priant, qui a une vision tout à fait exceptionnelle dans le domaine qui nous préoccupe, décadence et renaissance. Je voudrais vous rappeler que notre première émission a donc été faite avec Agnès Besson, philosophe et anthropologue, chargée de cours à l'Université de Nice, à propos du livre de Michel Onfray, « Décadence ». Elle a fait une analyse claire, concise de cet ouvrage et beaucoup d'éditeurs, d'auteurs, je dis bien des éditeurs qui nous écoutent, mais aussi d'auteurs qui nous ont envoyé leur message et aussi d'auditeurs, les trois, nous ont fait part de la qualité de cette contribution. Puis, dans la deuxième émission, nous avons reçu Michael Lass, qui est maire de Corrence, premier village bio en France, c'est-à-dire dans le Var. Il est maire depuis 18 ans. C'est un homme de terrain, mais aussi un homme de culture, ouvert à l'humanité, à qui nous avons choisi de donner la parole. Nous aurons donc, dans la deuxième partie de cette émission, Denis Priant. Mais, comme je l'avais prévu, c'est à Edgar Morin que nous allons demander de porter sa touche singulière, Edgar Morin, avec qui nous aurons une émission totalement inédite en juin sur les nouvelles humanités. Edgar Morin est tout à fait approprié pour nous donner cette coloration sur décadence et renaissance de notre époque. Écoutons-le.
Vous diriez que la mondialisation a oublié le social et l'humain.
Je dirais que, vous savez, les processus moteurs de la mondialisation qui sont une unification technique et économique du monde, elles ont oublié le phénomène des diversités humaines et culturelles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en même temps, vous savez que, regardez, cette unification technique et économique, elle a commencé dans les années 90. Pourquoi ? Vous avez l'invasion de l'économie libérale dans l'ex-Union soviétique et dans la Chine post-maoïste, c'est-à-dire que vous avez une unification économique. Et en même temps, c'est l'époque où avec le fax, puis l'Internet, le téléphone mobile, etc., on peut communiquer de tous les points de la planète. Donc, c'est ça l'unification. Mais vous vous rendez compte que cette unification, au lieu d'unifier le peuple et les cultures, les oppose. Dès le début de tout ceci, vous avez eu la guerre de Yougoslavie, où c'était une nation en formation qui s'est décomposée sous le fanatisme ethnique et religieux. Vous avez la Tchécoslovaquie s'est coupée en deux. Vous avez le Biafra qui s'est révolté en Afrique. Partout, vous voyez surgir des pays qui se referment sur leur propre culture. Bien entendu, ils prennent de l'Occident les armes les plus sophistiquées. Et ça aussi, ça a été passé pour l'Iran et pour d'autres pays. Mais en même temps, ils se ferment. Donc, si vous voulez, nous avons créé un processus contraire à une véritable solidarité de la planète. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes devenus interdépendants les uns les autres. En fait, aujourd'hui, dans tous les continents, tous les êtres humains ont un destin commun. Pourquoi ? Parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Le problème du danger nucléaire, dont les armes se multiplient. Le problème d'une économie qui n'est pas régulée, qui est soumise à l'hégémonie d'une finance omnipotente. Le danger d'une planète vivante que le développement économique incontrôlé dégrade de tous les côtés et qui provoque aujourd'hui même, disons, cette régression climatique, entre autres. Nous avons donc le fait que la science et la technique qui produisent des choses tellement bienfaisantes produisent aussi des choses les pires, parce que par la technique, on a servi les êtres humains. Aujourd'hui, vous développez, avec la robotisation et la mécanisation, des systèmes qui permettent de vider les travailleurs de leur emploi et vous créez du chômage, bon, aujourd'hui. Donc, vous avez tout ce processus est ambivalent. Moi, je ne nie pas qu'effectivement, dans des pays comme la Chine, comme le Brésil, comme ailleurs, il s'est créé une classe moyenne qui est sortie de la pauvreté et qui jouit des avantages de la civilisation occidentale, avec en même temps qui subit toutes les mêmes intoxications, hein, de la consommation et de tout ça. Mais dans ces mêmes pays, je vois d'énormes ceintures de bidonvilles autour des mégapoles. Je vois que la pauvreté s'est transformée plus en misère que en prospérité pour des millions et des millions de personnes. Et vous savez quand la misère, parce que vous pouvez avoir une pauvreté digne, le petit paysan qui a sa petite polyculture, qui a sa chèvre, qui a sa vache, il a un minimum d'autonomie. Mais si ce paysan est rejeté dans un bidonville, il est entièrement prolétarisé, il n'est plus rien, il est humilié par tous les autres, et nous avons affaire à ceci. Donc si vous voulez, la mondialisation, moi je pense qu'elle est très ambivalente. Elle a des côtés positifs quand ça multiplie les communications culturelles, ça multiplie les échanges. Moi je vois que j'étais par exemple au festival du film de Marrakech, où je vois des films des pays asiatiques, des films des pays africains. Je comprends mieux ces cultures grâce au cinéma qui s'est mondialisé, qui a permis à des pays d'avoir leur propre création cinématographique. Mais je vois aussi le pire, ça dégrade beaucoup des choses dans les cultures. Ça ignore que chaque pays a sa médecine propre qui doit être compagnée à la médecine occidentale et pas niée, que ces pays doivent sauvegarder leur communauté au lieu d'être réduits à l'individualisme égoïste qui est celui que nous imposons dans le monde. Donc, si vous voulez, et que nous, notre civilisation, elle a des carences très graves et nous importons ces carences comme une solution, alors que nous-mêmes, commençons à être malades. Donc, si vous voulez, il y a tout cet aspect ambivalent de la mondialisation. Et je vois que, surtout, c'est un processus totalement incontrôlé. Et ce processus incontrôlé conduit à des catastrophes. Nous ne sommes pas encore sur le point de réguler la dégradation écologique. C'est la convention qui s'est établie, l'accord sur le climat, est un tout premier pas. Mais le climat n'est qu'un aspect. Vous avez partout l'agriculture industrialisée qui produit détruit les sols et produit des aliments remplis de pesticides et qui sont insanes, qui n'ont plus que le goût. C'est ça qui règne. Alors qu'il faut relancer l'agriculture fermière et lancer l'agriculture écologique. Nous voyons donc que nous allons vers des catastrophes en chaîne, des migrations, justement. Il y a eu toujours dans l'histoire de l'humanité des migrations, mais nous nous rendons compte aujourd'hui que ce sont aussi bien les désastres économiques, les désastres écologiques et les désastres politiques que créent les guerres, comme les guerres de Syrie et en Irak, qui provoquent des nouveaux flux de migration et contre lesquels nous sommes fermés, nous ne voulons rien comprendre, alors qu'il suffirait de penser que toutes les erreurs qui ont été faites dans le Moyen-Orient ont permis le développement de ces guerres atroces et du Daesh, et que finalement, nous aurions pu éviter tout ceci. Bien entendu, non pas les migrations, mais qu'elles auraient pu être mieux régulées. Dans le fond, nous avons perdu tout sentiment de fraternité. Nous avons laissé se noyer pendant des années, des malheureux Africains qui fuyaient leur pays, soit pour des raisons politiques, d'insécurité militaire, soit pour des raisons économiques. Nous sommes incapables de... Vous savez, moi, j'ai vécu une grande migration française. C'est en juin 1940, quand les armées allemandes se ruaient sur le pays. Il y a la moitié de la France qui a dégringolé sur le sud. Eh bien, à part des cas d'égoïsme, évidemment... Mais on a été capable d'accueillir des millions de gens sans créer des bidonvilles, sans les mettre sous des tentes, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait effectivement un peuple paysan, un peuple même urbain qui comprenait ça. Évidemment, on était du même pays. Mais aujourd'hui, nous devons penser à ce que disait Montaigne qui disait « Je considère que tout homme est mon compatriote. Nous sommes dans une époque où nous sommes tous compatriotes et c'est ça qui est important. »
Voilà, nous venons d'entendre Edgar Morin et nous allons prolonger et nous avons rétabli le contact avec Denis Priant que nous aurons dans la deuxième partie de cette émission. Je vous ai parlé la dernière fois du fameux livre de Sapiens de Yuval Noah Harari qui, à 41 ans, publie un livre tout à fait extraordinaire. Je voudrais vous rappeler quelques passages, celui-ci par exemple. Si le 20e siècle a voulu réduire les écarts entre les gens, le 21e va en créer de nouveau. Ce qui me préoccupe, dit l'auteur, c'est que nous sommes potentiellement confrontés à la plus grande révolution, non seulement dans l'histoire, mais en biologie. Les gens laissent tout simplement les forces de marché déterminer quoi faire. Ou encore ce passage. Pendant des millénaires, les trois principaux problèmes de l'humanité ont toujours été les mêmes. La famine, le manque de nourriture, les épidémies, les fléaux, les guerres. Bien sûr, nous les avons en partie éliminés. Nous devons continuer de le faire, mais arrive un nouvel horizon tout à fait inquiétant. Que va-t-il se passer avec les évolutions de la technique et du vivant? Est-ce que nous allons assister, l'auteur se pose la question, à une petite minorité de gens qui va en profiter au maximum et la grande majorité qui sera laissée pour compte dans la pauvreté, sans emploi et qui sera considérée comme inutile? Et l'auteur termine ce livre, et je vous donne la fin pour que vous puissiez le lire, ce qui n'est généralement pas le cas. Je vous donne la fin. La seule chose que nous puissions faire, dit-il, c'est d'influencer la direction que nous prenons. Mais puisque nous pourrions bien être capables, sous peu, de manipuler nos désirs, la vraie question est non pas « que voulons-nous devenir ?», mais « que voulons-nous vouloir ?». Si cette question ne vous donne pas le frisson, c'est probablement que vous n'avez pas assez réfléchi. Souvenez-vous de cette réflexion qui, pour moi, est énorme. Alors, au terme de ces trois triades sur décadence et renaissance, il convenait de choisir une musique. Et celle que j'ai choisie va tout à fait dans le sens d'Edgar Morin. J'ai choisi Un extrait de la 9e symphonie de Beethoven, et plus précisément l'hymne à la joie. Cette musique qui prononce l'ode à la joie de Schiller. Cette musique composée il y a plus de 2 siècles. Cette musique dont l'auteur est sourd à 27 ans et meurt à 56 ans. Un homme qui a le sens de la fraternité, qui dit « l'homme est pour tout homme un frère ». Quelle foi en l'homme, quelle joie. Pierre Rabhi, un contemporain, dit « conquérir sa joie vaut mieux que s'abandonner à sa tristesse ». Quant à André Gide, il dit qu'il convient justement de privilégier la joie au cœur de la vie. Et Miguel Berger d'ajouter « la joie habite en moi lorsque j'ai compris que ma vie est unique en tout, alors l'instant a goût d'éternité ». Voilà, je vous propose de terminer cette première partie après ce petit incident avec Denis Priant pour le contacter, mais que nous allons retrouver dans la deuxième partie par ce passage de la 9e symphonie de l'Ode à la joie, et nous nous retrouvons après les informations pour entendre directement Denis Priant. Merci. Parole d'écriture, nous terminons cette émission, cette troisième, la triade de paroles d'écriture, la première fois sur ce thème décadence et renaissance. Et nous allons terminer avec Denis Priant, que nous avons désormais en ligne. Je rappelle que Denis Priant a créé les éditions L'Harmattan il y a 42 ans, il en est le directeur. Je vous ai donné en début de la première partie quelques chiffres. Je rappelle 2700 ouvrages par an. Denis est un témoin tout à fait exceptionnel de notre monde et il voit passer tous les ans non seulement les 2700 ouvrages qu'il publie, mais tant de manuscrits que nous allons l'accueillir pour l'interroger et savoir quelle est sa position à l'égard de ce thème de la décadence et de la renaissance. Bonsoir Denis. Voilà, nous sommes très très heureux de t'avoir en ligne finalement, car vous, je vais vous dire vous, Denis, vous êtes un témoin tout à fait exceptionnel dans le quartier latin, d'abord où il y a 7 antennes de L'Harmattan, mais aussi en Afrique, et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver sur l'émission d'avril « L'avenir se joue en Afrique ». Denis, vous qui voyez passer tant de manuscrits, tant de livres, tant d'auteurs, 30 000, c'est énorme. Comment percevez-vous notre monde ? Décadence, renaissance, où en sommes-nous ?
Eh bien, j'allais dire, de fait, je rencontre énormément de gens et tous les jours, j'ai au moins le rendez-vous avec 4 ou 5 auteurs qui passent d'Afrique ou africains qui sont ici en France et nous réfléchissons bien sûr beaucoup sur l'évolution de ce monde. Quand on parle de décadence ou de renaissance, plutôt que cela, je dirais plutôt, il faut faire un constat d'une situation qui est un peu intolérable actuellement de notre monde. C'est pas qu'une décadence, c'est qu'on est vraiment dans un creux et d'un monde difficilement tolérable. Dans une société qui se veut moderne, qui est moderne, qui a tellement évolué, eh bien, on ne peut que pleurer presque sur les délires de ce monde. Et j'aurais presque 3 ou 4 points qui, pour moi, marquent tous nos entretiens. Il y a d'abord ce problème des conflits et des guerres. On pensait que le siècle dernier allait être un... Allô ?
Oui, on vous entend tout à fait.
La ligne est bonne, donc ça va.
Oui, très bonne. Oui.
Donc, les conflits et les guerres, d'abord. C'est inadmissible qu'il y ait absolument partout les conflits et les conflits qu'on provoque, l'attitude des grandes puissances qui se croient tout permis. Je dirais là, nous on a souffert beaucoup avec les Africains de ce qui a été fait en Côte d'Ivoire par le gouvernement Chirac et Sarkozy d'abord, qui a entretenu une guérilla pour aboutir à une guerre impossible. Et puis deuxième point, si on prend encore l'Afrique, la question de la Libye, où on a été cassé pour des années et provoqué tout ce qu'on connaît actuellement avec les réfugiés qui cherchent à fuir, et encore avant-hier, à peu près 120 de morts par un bateau qui se dégonfle en partant de Libye. Ça, c'est un des premiers points. Donc ces conflits et ces guerres, on est dans un monde où c'est inadmissible que ça puisse durer. Deuxième point, si on parle guerre et conflit, c'est, et on n'en parle jamais presque en France, c'est les ventes d'armes. L'Afrique est le meilleur marché, y compris pour la France, pour les armes. Là, il y a quelque chose d'intolérable. Ensuite, bien sûr, provoqué un peu par ces conflits et ces guerres, c'est le drame de ces millions de réfugiés, de déplacés en tous sens. On a joué le jeu en Irak d'aller détruire l'Irak par l'intervention américaine. Et cette intervention a provoqué, après, tous les délires que l'on peut connaître. En Syrie, on a cru faire la même chose en pensant pouvoir aller déstabiliser quelqu'un comme Bachar el-Assad. Ce n'est pas qu'on peut soutenir les tortures ou les morts qu'il y a eu. Mais en même temps, déstabiliser la région, on savait qu'on provoquait finalement des millions de réfugiés. Un autre point que je trouve dans cette décadence de ce monde, c'est qu'avec les moyens que l'on a universels, les moyens donc de production et autres, on puisse encore assister à la faim ou la famine de milliers de gens. Actuellement, il faut savoir que ces temps-ci, on prévoit encore 200 000 morts ou à peu près 200 000 morts dans les régions du Nigeria, Soudan, Somalie, Yémen. Ce n'est pas tolérable. Voilà un peu donc ce que j'allais dire qui fait souffrir dans tous nos entretiens qu'on a avec les gens qui viennent d'Afrique, qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Tchad, qui viennent d'ailleurs, c'est ces conflits. Si on parle aussi conflits de Centrafrique, on pourrait démultiplier. Donc là, il y a vraiment une incompréhension de notre part de voir dans un monde où il y a des forces internationales, où il y a l'ONU, où il y a des instances qui sont chargées de régler les conflits, eh bien, rien n'est fait pour faire que ces conflits n'arrivent pas. Donc voilà un peu ce que je décrirais, moi, comme un peu une décadence forte de ce monde. Alors, si on parle maintenant un peu plus encore des points négatifs, je dirais qu'un des points négatifs, et on est en train de le vivre ici en France, c'est la corruption. Ici, j'allais dire, nous qui avons beaucoup d'Africains, souvent on est marqué par les leçons que la France cherchait à donner aux Africains, hein, de la corruption partout en Afrique. Puis on s'aperçoit maintenant, au moment des élections, qu'on est devant une corruption un peu institutionnalisée aussi en France, puisqu'on s'aperçoit que c'est notre classe politique qui est celle qui doit montrer l'exemple, et que cette classe politique, elle est empatouillée dans un tas de choses comme cela, et qui donne une image absolument ridicule, j'allais dire, aux donneurs de leçons que nous étions. Donc ça, c'est un peu tous les éléments sens dans cette société et dans ce monde qui fait souffrir tant de monde. Alors maintenant, si je passe un peu au point d'espérance, au point, j'allais dire, un peu fort, et que je veux souligner, c'est un peu quand même l'éveil qu'il y a un peu partout d'une conscience citoyenne. C'est vrai que les associatifs font un travail merveilleux, très fort, et là je voudrais citer un peu les grandes ONG. Si on voit les grandes ONG en France, heureusement qu'elles existent, heureusement que le Secours Populaire, le Secours Catholique, CCFD, Coluche, heureusement que toutes ces instances, l'Ami de Pain et autres, existent, ATT Garmonde, tous ces gens, tous ces militants qui font que la condition des gens qui sont largués en France, des 3,5 millions de chômeurs, des à peu près 6 à 7 millions qui sont au seuil de pauvreté, heureusement que cette conscience, que ce partage se fait grâce à ces associatifs. Et ça, pour moi, c'est vraiment un espoir assez fort que la force de ces associations. Et le deuxième point, quand je parle de l'éveil de la conscience citoyenne, c'est un peu la société civile qui veut s'organiser partout. Hein, c'est la lutte contre la torture, c'est la dénonciation des injustices, et c'est tous ces gens qui se mettent un peu en route. Donc voilà un peu l'analyse que je fais de décadence, renaissance de notre société. Alors il y aurait beaucoup à dire sur chacun de ces points, et nous y travaillons, nous avons des auteurs, nous avons des gens qui travaillent sur tous ces thèmes, et c'est ça l'important un peu, de faire que la conscience citoyenne, et que cette conscience puisse atteindre, j'allais dire, les élites politiques. J'allais dire, nous sommes presque obligés de dire actuellement que notre pays, comme pays de pays, sont malades des élites. C'est-à-dire les élites qui doivent avoir la conscience nationale, qui doivent avoir la conscience du mieux-être de l'ensemble de la société, eh bien, on les voit empatouillés dans des dérivations financières, on les voit empatouillés dans leur maintien de leurs privilèges, et tout cela, eh bien, c'est ce qui fait que le monde ne va pas aussi bien qu'il pourrait aller. Voilà un peu.
Belle analyse, Denis. Alors, si je vous pose la question, Denis, dans tous les livres qui sortent, est-ce qu'il y a certaines zones, certaines questions que vous aimeriez voir plus étudiées par certains auteurs ?
Eh bien, c'est pas que l'analyse des auteurs, c'est pas que les livres publiés par les auteurs. Nous avons énormément d'auteurs qui travaillent absolument sur tous ces thèmes. Mais ce que nous souhaitons, nous, et la force et notre demande, c'est que les intellectuels soient plus écoutés, soient plus suivis par, finalement, les responsables politiques. La malgouvernance, elle est analysée. Mais, pratiquement, les gens qui ont le pouvoir en main ne tiennent pas compte de toutes les analyses. Si vous voulez, dans les ouvrages qu'on publie, il y en a beaucoup qui parlent justement de la pauvreté, même chez nous. Nous avions sorti déjà dans les années 80, tout à fait début 80, un livre qui a marqué, qui était « La pauvreté, un destin ». Et c'est un livre qui faisait déjà l'analyse à l'époque des gens largués. Eh bien, depuis cette époque, nous assistons, depuis 80, on a à peu près le même nombre de gens qui se trouvent encore largués. Un chômage qui a augmenté, qui est toujours là. Deuxième point, un seuil de pauvreté qu'on n'a pas su résorber. Troisième point, un logement qu'on n'a pas réussi à donner à tout le monde, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir tant de gens à Paris dans les rues. Et dans les rues, alors je parle des SDF, et maintenant je parle dans les populations migrantes qui arrivent. Hier soir, je revenais, il était 11h15 du Lucernaire. Dans les parties un peu, j'allais dire, des quelques mètres carrés qui sont des renforts devant des magasins ou même devant la sortie de secours du Lucernaire, il y avait des gens installés. Nous avons vu, avec Armel, nous revenions, plus de 20 personnes, de 20 groupes de 2 ou 3 personnes qui étaient comme ça dans des entrelacs, dans des renforts. Ce n'est pas normal. Et tout cela, eh bien, tout le monde en parle, on en parle constamment, et on a l'impression que des pays comme le nôtre, qui sont le 5e ou 6e puissance mondiale, on est incapable de résorber ou d'analyser ou de faire que l'administration, les pouvoirs publics puissent avancer vite sur un thème comme celui-là. Donc voilà un peu. Alors, nos auteurs, bien sûr, on les encourage constamment à travailler sur le phénomène des guerres. Comment avancer vers la paix, parce qu'il y a une formation à la paix, il y a une formation à la gestion des conflits. Pour les injustices sociales, on a un tas de bouquins qui analysent. On pourrait parler aussi de l'écologie, on a un tas de bouquins. Donc l'important, c'est vraiment que le lien se fasse entre les intellectuels et les pouvoirs. Hein, souvent, ce n'est pas les analyses qui manquent, mais c'est la décision d'application de ce que tout le monde sait ou tout le monde dit. Le constat, il y a tellement de gens qui le font. Alors je dis tout à l'heure, et je le redis, heureusement, il y a quand même maintenant des organisations citoyennes de plus en plus, et c'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, n'a pas tout à faire. On est même parfois dans une réglementation en France qui nous gêne dans le travail même du social.
Denis, vous publiez un nombre d'ouvrages très élevé, alors j'ai envie de vous dire, comment les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore peuvent avoir régulièrement cette information gratuite pour connaître un peu tous les thèmes qui sortent quasiment tous les 15 jours ou toutes les semaines, je crois?
Eh bien, c'est-à-dire actuellement, on sort donc 15 ouvrages par jour ouvrable. Donc, tous les jours, il y a 15 nouveaux livres parce qu'il y a 400 directeurs de collection qui travaillent sur tous les thèmes possibles et imaginables. Et ces directeurs de collection ont des équipes de recherche. Et pour eux, c'est important que leurs travaux soient publiés. Il faut donc, pour avoir de l'information, c'est relativement simple puisque nous avons un site qui est extrêmement visité puisqu'il a constamment entre 5000 et 12000 personnes qui sont en train de travailler dessus, d'aller chercher leur base documentaire. Donc, j'allais dire, tout auditeur, toute personne qui veut connaître ce que l'on publie, il suffit d'aller sur le site, de frapper Harmattan et ça vient en tête. Vous avez automatiquement donc accès à toute cette base documentaire. Nous faisons également énormément d'informations, bien sûr, par email, puisque de ces 2 derniers mois, pour l'information, nous envoyons plus d'un million d'emails par mois. Et donc, toute cette information fait aussi que d'autres manuscrits remontent. Donc, voilà un peu pour dire l'information. Et si quelqu'un a une question quelconque, ben il nous écrit. Et puis, l'analyse par mots-clés, puisque, j'allais dire, la diffusion actuellement de l'information se fait beaucoup donc par Internet. Il faut savoir aussi qu'on a plus de 50 bibliothèques mondiales qui sont abonnés à tout le fond, donc qui ont les 39 000 et quelques e-books disponibles dans leur mémoire informatique et que c'est d'accès libre dans ces bibliothèques. Donc voilà un peu l'information, comment elle peut circuler. Et y compris pour l'Afrique, les campus numériques sont équipés de l'ensemble du fonds de l'Harmattan.
Merci beaucoup, Denis, de ces informations. Et pour beaucoup d'auditeurs, c'est une découverte. Pourtant, les éditions l'Harmattan, c'est au cœur du Quartier Latin, c'est quelque chose de totalement impressionnant, mais il y a encore beaucoup d'auditeurs qui ne vous connaissaient pas, Denis.
Et merci beaucoup. Et nous, ce qu'on surtout, c'est de toujours rappeler les objectifs un peu de l'Harmattan. C'est droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit de l'homme au carrefour des cultures et le dernier point, au service de l'écriture et de la recherche pour la transformation sociale. Nous, ce qui est important, c'est qu'on arrive à un monde global qui vive beaucoup mieux. La Terre est une petite boule et c'est dommage, finalement, qu'il y ait tous ces conflits, qu'il y ait tous les jours un tas de gens qui tombent, qui meurent à cause, bien sûr, de l'idiotie, j'allais dire, des intégristes islamiques et de tous ceux qui sont des inconditionnels de la mort. Ça, c'est bien dommage. Dommage de ces centaines de conflits qui existent dans le monde. Et puis dommage aussi de tous ces gens qui meurent encore aujourd'hui de faim.
Merci beaucoup, Denis. Je vais vous faire une confidence avant l'émission sur l'avenir se joue en Afrique, le 28 avril, pour lequel j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger avec vous. Vous avez lancé une opération toute simple, 10 000 ouvrages, je crois, sur l'Afrique. C'est bien ça, Denis ?
Tout à fait, tout à fait. Les amis de l'Harmattan, on veut envoyer beaucoup d'ouvrages. Là, on rentre, il y a 2 mois, nous étions en Guinée. Il y a 3 mois, nous étions au Mali. Et là, le 21-22 avril, je suis en Éthiopie pour justement discuter autour des questions du livre, de la formation et de la publication dans toutes les langues possibles. Voilà, donc on continue. Et le livre reste encore un des moyens actuels, contemporains, nécessaires, d'autant plus que en Afrique quand même si les médias modernes circulent beaucoup, l'Internet fonctionne beaucoup, mais il y a tellement de millions d'étudiants qui n'ont pas accès encore à un Internet courant. Voilà. Donc nous faisons partir, de fait, nous avons le souci de faire partir bien plus de 10 000 bouquins dans les 3-4 mois qui viennent.
Alors,
Denis, merci à vous de faire un appel précisément, puisqu'il y a tellement de bouquins qui dorment maintenant et qu'on sait qu'on ne va plus les ouvrir, mais il y en a qui attendent de feuilleter les pages.
Tout à fait, Denis. Et à ce jour, au moment où nous nous parlons, nous avons réuni ici, grâce à un certain nombre d'auditeurs, 700 ouvrages. Une goutte d'eau, certes, mais pas négligeable. Et on
pas
peut monter jusqu'à 1000.
Pas négligeable du tout.
Merci beaucoup,
encore.
Denis. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, l'entretien avec Denis Priant, ce témoin exceptionnel de notre époque par rapport à tous les auteurs, à tous les livres qu'il publie, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, qui est une zone, un continent sur lequel travaille particulièrement l'Harmattan, mais aussi pour le monde entier, vraiment une instance de carrefour des cultures. Si vous, certains auditeurs, vous voulez adresser des ouvrages, eh bien, prenez contact avec Agora Côte d'Azur, Parole d'écriture, et nous veillerons à réunir, si nous arrivons à 1000 ouvrages, ça serait vraiment quelque chose de merveilleux pour le mois de juin. Voilà, je pense que Denis nous a rappelé, à sa manière, des thèmes forts. Conflit, guerre, vente d'armes, réfugiés, famine, ça existe encore. Et de nous rappeler que l'éveil se joue sur la conscience citoyenne. Finalement, nous retrouvons ce vieux sage chinois qui disait à son empereur « Mais empereur, si vous voulez maîtriser votre peuple, ne prenez pas que la guerre. Recourez à la corruption et l'absence d'éducation et vous gagnerez. Lutter contre la corruption, s'éveiller, éduquer, voilà peut-être des perspectives au-delà des décadences pour assumer les renaissances. Et partout, Michael nous a donné un exemple à Corrance et ailleurs, la conscience citoyenne s'éveille, il y a des raisons d'espérer. Le voulons-nous vraiment ? Je vous laisse répondre, chers auditeurs. Bonsoir.